votre communauté, vos conversations. SBS French.
Allez, aujourd'hui, on a le plaisir dans le programme en français d'avoir Andrei Vaitovitch avec nous. Bonjour, Andrei.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste russe basé à Paris et surtout, vous avez une belle histoire. Enfin, en tout cas, vous avez suivi ce démantèlement de la jungle à Calais et avec une histoire assez touchante. Un jeune de 14 ans, un adolescent de 14 ans. Racontez-nous comment vous avez vécu cette histoire, justement, parce que c'est un grand moment, enfin, c'est un gros moment de l'actualité en France en ce moment.
Oui, c'est vrai. C'est l'actualité majeure en France et pas seulement pour les journalistes français. Et surtout pour nous, pour les journalistes, moi je suis journaliste russophone qui travaille en Europe, qui collabore avec les médias plutôt européens. Et donc ce lundi, je suis allé à Calais un après-midi parce que c'était déjà assez tard, je pense. Mais bon, je suis allé un après-midi, vers 17h, je suis arrivé à la jungle. Donc il faut comprendre que pour arriver là-bas, c'est plus simple parce que autour de la route qui va vers le port, ils ont commencé à construire un mur qui est financé par le Royaume-Uni. Donc, il y a beaucoup de policiers, beaucoup de cordons des policiers autour de la route. Et donc, pour y accéder, il fallait marcher encore quelques kilomètres. Mais bon, après être arrivé sur place, tous ces problèmes, on les oublie tout de suite parce que quand on approche les jungles, ce camp de migrants, on voit les conditions que les gens ont vécu les dernières 4 mois, 5 mois, quelqu'un a passé plus d'un an. On oublie tout ça. La fermeture du camp a commencé ce lundi. Et l'idée, c'était que l'autorité pensait de terminer vers la fin de cette semaine. Mais même aujourd'hui, cette nuit, il y avait une bande de centaines de migrants, compris mineurs, qui ont dormi dans la jungle, qui n'étaient pas encore accueillis dans les centres d'orientation pour continuer les procédures d'avoir le statut de réfugié en France ou bien de regarder s'il y a la possibilité de rejoindre leur famille parce que certains, ils ont leur famille en Angleterre. Lundi après-midi, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Majid. Il m'a dit qu'il a 14 ans et ce jour-là, il a appris qu'il va rejoindre son oncle qui habite en Angleterre depuis longtemps.
Et c'était son objectif, ça, lui, c'est ça, non? Et c'était son objectif, il voulait partir en Angleterre, lui. Hein.
En fait, c'est l'objectif pour la plupart des gens que j'ai rencontrés là-bas, personnellement. Après, c'est vrai, on demande pourquoi ces gens veulent aller en Angleterre. Et quand on discute cette question, ils disent que voilà, en Angleterre, ils ont plus de chances de trouver un travail au bout de quelques heures qu'en France, qu'en Italie, qu'en Espagne, par exemple. Parce qu'il y a des gens, même qui étaient dans la jungle de Calais, qui avaient déjà des papiers des réfugiés en Italie ou bien en Espagne. Donc, même en France, il y a certains qui restaient 4 mois, 6 mois. En France, la procédure d'avoir un statut de réfugié, ce n'est pas très compliqué. Mais par contre, ces gens ils préfèrent aller en Angleterre, rejoindre ce pays parce que la situation avec le marché du travail est vraiment mieux qu'en France en ce moment.
Qu'on comprenne bien en fait l'état actuel aujourd'hui de la jungle, on a vu les images, ils ont commencé à démanteler, c'est-à-dire qu'en fait les bulldozers sont arrivés, ont commencé à retirer l'espèce de bidonville qui était là, mais il y a encore des gens qui sont sur place, il y a encore des migrants sur place.
Voilà, comme je l'ai dit ce matin, je suis plus sur place, donc je ne peux pas parler de mes propres yeux, mais je vois que selon les organisations, les bénévoles qui sont sur place, il y a une bonne centaine des migrants qui attend son tour, qui reste toujours là-bas. Mais la jungle, les tentes, ils ont complètement, absolument détruit. Donc il n'y a plus rien. C'était pas comme c'était lundi quand je suis allé. et de parler un petit peu des conditions quand ce que j'ai vu lundi. On est arrivé assez tard, donc il a commencé à faire nuit et on nous a dit, même certains nos contacts parmi les migrants, ils ont dit que c'est mieux de rester à côté de l'entrée, n'est pas aller plus loin, n'est pas aller à l'intérieur de la jungle, parce que ça peut être dangereux. Donc, effectivement, on a resté à côté de l'entrée où il y avait des forces de l'ordre, les pompiers et les journalistes. Il faut dire que pour cet événement, il y avait 800 journalistes accrédités seulement à Calais. Donc, c'est vraiment les chiffres hallucinants. De la BBC, par exemple, il y avait une équipe de 48 personnes, donc c'est une rédaction sur place.
48
Et
personnes.
48 personnes,
C'est
oui,
énorme. Ouais, c'est
compris
énorme.
les techniciens, les journalistes, les photographes, les caméramans. Et donc, c'était vraiment un événement qui attirait tout le monde. Il n'y avait pas que des journalistes de l'Ouest, il y avait aussi des journalistes des Bangladesh, de la Chine, du Japon. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça le travail des journalistes, il était critiqué aussi. Il y avait un article qui est sorti hier au Monde, qui parle notamment du travail des journalistes cette semaine à Calais. Et parce qu'en fait, vu que la concurrence, il y a beaucoup de concurrence, et tous les journalistes, pas tous, mais il y a des journalistes qui oublient qu'ils sont dans un endroit un peu particulier, qu'on ne peut pas, par exemple, tourner leurs images sans avoir demandé. Vous savez que les bénévoles, ils ont même distribué les petits stickers aux réfugiés pour mettre sur le vêtement avec une caméra barrée pour ceux que les journalistes ne prennent pas les photos. Mais le matin, lundi matin, quand tout a commencé, et les premiers réfugiés commençaient d'être accueillis par bénévoles et par les gens qui s'occupent de leur départ dans les centres. Les journalistes commençaient de tourner ces images en direct sans avoir demandé si c'était possible. Donc effectivement, c'était vraiment aussi un challenge pour les journalistes. Et vraiment, quand c'était dans cet article, on voit, c'était le matin, il fait froid, les journalistes portent les doudounes, les chapeaux, les bonnets, etc. Et là, on voit arriver des réfugiés qui sont parfois dans les t-shirts, dans le vêtement assez frais, et avec les sandales en plastique. C'est vraiment un
Ouais.
décalage des réalités qui voilà.
Ouais. Et vous avez pu rester en contact avec j'allais dire le petit, avec Majid, qui est donc maintenant
Voilà,
arrivé en
ouais. Et
Angleterre, je
donc,
suppose.
oui, quelques mots sur lui. Et donc, quand je l'ai rencontré lundi, il m'a dit qu'il a appris ce matin, il était très content parce que ils ont promis la semaine, et même la semaine dernière, il était déjà promis, ils ont dit qu'on va t'appeler demain. Il attendait ce demain pendant une semaine, donc on peut imaginer que c'était vraiment dur pour lui, parce que quand on promet quelque chose, même à un adulte, je ne parle pas d'un enfant, on promet que demain tu vas avoir un appel d'Angleterre et tu vas partir. Il attendait jusque lundi. Et j'ai rencontré aussi deux journalistes belges qui suivaient ce garçon depuis un mois. Ils font un documentaire sur lui et sur les enfants non accompagnés, parce que c'est ça la grande question aussi. Il y avait plus d'une mille des enfants sans parents, sans compagnie, non accompagnés. Donc, et on m'a dit, et ils m'ont dit que voilà. Quand ce garçon, il a appris qu'il va rejoindre son oncle en Angleterre, la première personne qu'il a contactée pour dire ça, c'était ce journaliste belge qui est d'origine afghane. Il a appelé à ce journaliste et puis il a appelé à son père. Donc c'était vraiment un moment d'émotion pour lui. Mais par contre, quand j'ai rencontré, je ne savais pas le contexte, je ne savais pas cette histoire avant. Et j'ai vu son ami. Son un des meilleurs amis à la camp à la jungle dans le camp qui s'appelle Sefo, qui est aussi lui-même veut aller en Angleterre pour rejoindre ses amis, Mais pour le moment, personne n'appelle. Pour le moment, il ne sait pas s'il pourrait effectivement rejoindre Angleterre et traverser la Manche légalement. Et donc, hier et avant-hier, j'étais en contact avec Majid. Il m'a appelé d'Angleterre. Il était très content. Il est passé par Londres et hier soir, il a finalement rencontré son oncle. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'ils sont. Et il m'a dit, oui, je suis très heureux parce que maintenant, je pourrai faire mes études, je pourrai apprendre anglais. Et voilà.
Sa nouvelle vie
Oui,
commence
non.
maintenant, en fait.
Oui, ça peut être une sorte de nouvelle vie. Moi, je suis sûr que au moins pour quelques jours, il sera très content. Peut-être sa vie ne changera pas. Peut-être ça ne sera pas mieux. Peut-être ce sera plus difficile en Angleterre. On peut imaginer que dans notre pays où il faut apprendre la langue, etc., ça peut être difficile. Mais à ce moment, je suis sûr que lui, il est en sécurité. Il ne dort plus dans ses baraques, dans ses camps, dans ses tentes pourries qui protègent pas contre le vent où il y a des rats partout la nuit. Donc, je suis sûr que pour lui, cette histoire, c'est un happy end. Par contre, pour son ami qui m'a écrit hier soir, il m'a dit que je suis dans un centre, je ne sais pas dans quelle ville je suis. Donc, il va me tenir au courant, mais pour le moment, il reste en France.
D'accord. Ben, merci André, en tout cas, de nous avoir fait vivre un peu cette histoire, parce que c'est vrai qu'au-delà des images qu'on a peut-être pu voir à la télé en Australie, c'est resté assez succinct quand même l'information qu'on a pu recevoir. Donc c'était important
Là,
d'avoir
j'imagine.
un message que de quelqu'un qui était sur place, en fait.
Merci à vous.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.